Et cinq réflexions, propositions à partir de notre expérience, et en particulier en partant d'un exemple d'alliance qui a été évoqué hier à partir de Sauvons la Recherche, qui a permis une alliance entre des chercheurs et d'autres salariés de la recherche, et qui a permis d'avancer sur des revendications, mais pour lesquelles on a eu un certain nombre de limites pour sortir cette question de la recherche des universités et pouvoir développer des alliances avec d'autres salariés, en particulier les salariés scientifiques dans les entreprises, malgré un certain nombre de potentiels. Donc première réflexion, proposition, pour essayer de développer les alliances, on essaye de travailler sur le triptyque enseignement supérieur, recherche fondamentale, recherche appliquée, en essayant de travailler sur cette question, parce que pour nous c'est un moyen à la fois de développer les connaissances, mais aussi de permettre une amélioration de la réponse aux besoins. Et à partir de ce moment-là, ça nous permet de cerner un certain nombre de priorités sociales et de faire un certain nombre de propositions, revendications. Deuxième élément, il y a eu une réflexion importante autour de la démocratisation. Au niveau des organisations syndicales françaises, on a la chance, entre guillemets, de siéger au conseil d'administration des universités, ce qui nous amène à poser un certain nombre de questions, en particulier liées à la manière dont on pourrait en faire un lieu de démocratisation de l'université, mais y compris qui nous permettrait de pouvoir faire le lien avec les entreprises au niveau des universités. Troisième question, réflexion, la question des moyens. En Europe, la stratégie de Lisbonne en 2000 a mis comme orientation que les crédits consacrés à la recherche soient portés à hauteur de 3% du PIB. On est péniblement à 1% aujourd'hui. Et aujourd'hui, entreprises et gouvernements se rejettent la responsabilité. On ne peut pas faire aujourd'hui, je pense, abstraction de poser la question des moyens pour la recherche en termes revendicatifs. Quatrième possibilité, deux secondes, la question de la responsabilité sociale, où nous, on a un travail important, mais je pense que là aussi, ces questions d'éthique qui ont été soulevées par Cécile Sabourin hier ne peuvent pas se faire sans, là aussi, des alliances avec les cadres dans les entreprises, parce que les problématiques se posent à peu près de la même manière pour eux. Et dernier point, on est tout à fait favorable à l'idée de poursuivre le Forum mondial Sciences et Démocratie. D'abord parce qu'on a besoin d'une réponse globale, même si elle doit intégrer un certain nombre de particularités dans les pays. Mais je pense aussi que cette question du Forum mondial devrait pouvoir être élargie aux scientifiques qui sont, eux, dans les entreprises. Merci.
Bonjour, Yves Lebars, je suis ingénieur des eaux et forêts et j'ai passé beaucoup de temps dans la recherche et dans la gestion de la recherche. Je suis maintenant président d'une ONG de développement international qui est le GRET, qui travaille proche de la recherche. Et je crois, ça a été dit plusieurs fois, nous avons besoin de préciser les mots que nous utilisons. Et ça a des conséquences. Je voudrais que l'on clarifie des mots qu'on a utilisés quelquefois l'un après l'autre, qui sont la recherche et la science. Et puis on pourrait aussi se poser la question sur innovation et technologie. Pour moi, mais je pense qu'il peut y avoir d'autres opinions, je crois que la science, c'est la connaissance accumulée, accessible, classée, selon un certain nombre de règles, en particulier en discipline. Et cette connaissance, effectivement, son rôle, c'est d'être accessible à tous. La recherche, c'est le front de la connaissance, c'est une activité de déplacement, justement, de la connaissance, qui peut remettre en cause le contenu de chaque discipline, mais qui aussi doit, je dirais, remettre en cause la structure, l'organisation, la division du travail à l'intérieur de la fabrication de nouvelles connaissances. Alors, quand on a dit ça, défendre la science, c'est pas comme défendre la recherche. Pas tout à fait. Démocratiser la science, c'est d'abord la rendre accessible, et merci à nos amis indiens de nous avoir montré ce qu'ils font pour cela. Mais démocratiser la recherche, c'est autre chose. C'est, me semble-t-il, effectivement, sortir de la tyrannie, de la technoscience pilotée par le profit, mais c'est donc aussi trouver des capacités de mobilisation du potentiel de connaissance, du potentiel de recherche, pardon, autour de nouveaux questionnements. On nous a parlé de la violence, on pourrait parler de l'accès à la ville, on pourrait parler de beaucoup d'autres sujets, de politique énergétique, des impacts des innovations technologiques. Et là, il faut trouver effectivement une convergence de scientifiques libres de leur choix, mais engagés comme citoyens, experts, qui, avec des mouvements sociaux et avec les autorités responsables de la conduite des politiques publiques si elles acceptent de participer. Voilà ce que je voulais signaler. Distinguer recherche, science et recherche nous amène à mieux préciser, me semble-t-il, les axes de la démocratisation de chacun d'eux. Et ce qui conduit alors d'ailleurs à dire nous avons dans la société à trouver des innovations qui ne sont pas que technologiques, mais aussi organisationnelles. Voilà ma conclusion. Merci.
Hello, I'm Pablo from the University of São Paulo. I'd like to comment on Andrew's speech about autonomy and... I'd like to comment on Andrew's speech on autonomy and social control, social responsibility, because this is a major theme regarding what we're discussing in this forum. I was not completely satisfied with your answer, so I'd like to give you a practical example of what happened here in Brazil, so perhaps you could clarify your proposal. Autonomy of research, we understand, is basically dealt... Autonomy of research is... we actually understand autonomy of research as the liberty of the researcher to define what he's going to do within his field. So to define, this is my problem, this is my methodology, this is my theory. And in any major institution, you have that. Nobody tells us what to do. I never heard of it in any major scientific institution. When it comes to have research funds to get a grant, that's where things are different, because you know the market and the state defines your research agenda, because even if you have a scientific problem, if you do not have money to hire your staff or to buy equipment, you don't do your research. So this is where, you know, both the market and the state define research agendas at the university. So, but this is more subtle. So scientists think they have autonomy, but in fact they do not, because their agenda are defined by, you know, by the who defines where the grants are offered. The case for GMO in Brazil is very...
Can I ask you to now do it within my life?
I'm sorry.
I'm so sorry about the time. You can discuss with him now. Sure. Sorry to do that.
Okay.
Bonjour, je suis professeur Emerson Salles de l'État de Bahia, c'est au Brésil. Et je suis un chercheur en chimie physique. Et je vais d'abord seulement poser deux petits points pour la réflexion. Le premier, c'est par rapport à quand on parle de participation de la société dans démocratiser un peu la science et nos recherches, tout ça. C'est d'abord la question de la langage. Parce que c'est très difficile si on veut parler. Nous, entre nous, les scientifiques, on a toujours nos langages, c'est toujours facile à discuter les choses. Mais quand on fait le travail avec la société, c'est vraiment très, très difficile de les entendre et de laisser la parole. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment penser beaucoup à ce type de questions. C'est une question simple, d'ordre pratique, mais c'est fondamental. Parce qu'ici au Brésil, on a toujours le travail de extension qu'on appelle, c'est toujours tous les facs. Pour être appelé comme une université, il faut faire l'enseignement, la recherche et l'extension. Ça veut dire sortir du mur de la fac et aller vers la société, faire le travail dans les choses, les sujets qui sont les sujets très importants pour le peuple et pour nous. La deuxième question, c'est par rapport à liberté. Qu'on parle toujours, et liberté de travail, de science, de sujet, qu'on va choisir pour faire nos recherches. Et je pose la question plutôt, on ne peut pas séparer ça de la question politique. Parce qu'on voit par exemple en France, après l'élection de Sarkozy, ce qu'on voit c'est chaque fois, on voit chaque année une défavorisation du Centre National de Recherche et plutôt que c'est incentivé à chercher des sujets qui intéressent l'industrie pour trouver l'argent des projets de recherche qui sont toujours liés à les intérêts industriels et comme ça on casse un peu notre liberté de recherche. Merci.
Stéphane Couture, Université du Québec à Montréal. J'aimerais insister, comme d'autres personnes l'ont fait avant, sur la nécessité de clarifier un peu les mots qu'on utilise dans le cadre de nos futures discussions. En particulier, j'ai trouvé dans les deux derniers jours, sauf récemment, il n'y a pas eu beaucoup, on n'a pas abordé beaucoup le concept de vérité. Alors que démocratie et science, justement, il me semble que la question de la vérité devrait être quand même abordé, on devrait se positionner sur ça. Il me semble que la plupart d'entre nous, en fait, la totalité d'entre nous, on s'entend sur l'évidence qu'on ne votera pas sur 2 plus 2 égale 5. Okay? On ne votera pas sur, disons, des vérités fondamentales. Ça peut paraître évident, mais en même temps, c'est précisément ça qui distingue notre revendication d'une démocratisation de la science d'une revendication qui serait, par exemple, créationniste, qui dirait que toutes les vérités peuvent être votées, okay? Ou quelque chose comme ça. Donc, il me semble que c'est important, à ce niveau-là, de bien expliquer qu'est-ce qu'on veut dire et c'est quoi la limite de ce qu'on revendique au niveau de science et démocratie. Cela dit, contrairement à Andrew, j'ai l'impression qu'on va plus loin que la production technologique dans le débat qui est ici. J'ai l'impression, par exemple, on pourrait décider de façon démocratique de mettre davantage de ressources à comprendre le réchauffement climatique que de comprendre le Big Bang, ou on pourrait décider de mettre davantage de ressources à comprendre la situation en Amazonie que dans une autre discipline, par exemple. Donc, j'arrêterai. Donc, il faudrait décider sur quoi on s'entend vraiment et limiter notre revendication et dans le rapport science et démocratie. Merci.
Bom dia, sou Benedito Ferreira, trabalho na Universidade Federal do Pará e acho que gostaria de, como outros colegas fizeram, apresentar uma perspectiva paraense, amazônica, a essa problemática da ciência e democracia. Ontem a professora Edna Castro falava de que a ciência, o percentual de verbas para a ciência e tecnologia da Amazônia é 3% do que é gasto no Brasil. Embora tenhamos uma área muito maior e uma população que ela se tornou com 10%. Né? Mas eu complementaria dizendo que a verba, o bolo, estamos falando de uma fatia pequena de um bolo que já é pequeno, porque a verba para a pesquisa científica no Brasil é de 1% do produto interno bruto, enquanto Estados Unidos 6,6%, Suécia 6,4%, Finlândia 5,9%, Japão 5,3%, Dinamarca 5,1%. O governo Lula anunciou que até 2010 aumentaria para 1,5% essa verba. No entanto, o relator do orçamento propõe um corte de 18% da verba para a ciência. Bem, então nós temos outro dado também que a professora Edna Castro falou ontem, que a 60% dessa verba que vem para a Amazônia fica praticamente aqui no Pará, aqui em Belém, porque nós temos aí estados aí enormes que não tem sequer uma universidade com uma pesquisa consolidada. E aqui mesmo no Pará nós precisaríamos ter uma outra UFPA, ou maior que ela aí, em Santarém, que são cidades do sul, do oeste, do sul do Pará, um estado enorme. Então, e eu mais uma vez, para encerrar, faço a ligação também com o Paulo Freire, que já foi citado algumas vezes,
que diz que a obrigação do educador também lutar pelas condições de trabalho e pela dignidade da educação. E talvez a gente possa fazer uma extensão desse pensamento para a ciência. É a obrigação do cientista também lutar por isso. E sem volume de pesquisa, a gente também não adianta muito discutir a questão de qualidade. Não são duas coisas que se opõem. Acho que volume também é super importante.
Je suis François-Auguste élu et vice-président du conseil régional Rhône-Alpes en France, délégué à la démocratie participative. Donc, je voudrais d'abord faire une petite remarque dans notre débat entre science et démocratie. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas trop focaliser, en tout cas ne pas tout focaliser sur la responsabilité des chercheurs et des scientifiques. D'autant plus que cette responsabilité est de plus en plus limitée par la réduction des budgets, par les priorités imposées par l'État, les marchés financiers, par l'absence de démocratie dans les choix, par la précarisation du métier d'enseignant-chercheur. Et je vous informe qu'il y a en France actuellement la préparation d'une grève illimitée des enseignants-chercheurs si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Donc ce que je veux dire, c'est que les chercheurs ou scientifiques ne peuvent pas s'en sortir seuls. Que les citoyens, organisés ou pas, je reviendrai là-dessus, c'est important, ne peuvent pas s'en sortir seuls. Les élus locaux ou régionaux ne peuvent pas s'en sortir seuls. Je crois que c'est ensemble, dans un débat commun, qui met en mouvement les citoyens, les élus, les chercheurs, dans une construction commune de réponses politiques axées sur le développement de la recherche, le développement de la société, qu'on trouvera les solutions. C'est l'irruption de la démocratie participative, c'est-à-dire de l'intervention directe des citoyens dans les choix politiques et aussi technologiques. Tout ce que nous faisons en Rhône-Alpes depuis 4 ans, c'est la mise en mouvement d'espace, la construction d'espace, d'outils, d'intervention directe des citoyens, ce que moi j'appelle la légitimité citoyenne, la légitimité des citoyens non organisés. Parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a la légitimité bien sûr des élus, du suffrage universel. Il y a aussi la légitimité de ce que vous avez appelé la société civile, les syndicats, les associations, mais il y a aussi une légitimité d'intervention citoyenne directe, construite collectivement. Par exemple, nous avons, nous, mis en place un panel citoyen, de citoyens tirés au sort, qui a participé à un colloque que nous avons fait sur les nanotechnologies, puisque c'est une dimension importante dans la région Rhône-Alpes. Et nous travaillons à des processus participatifs très diversifiés, permettant la mise en commun, l'intervention directe des citoyens et la mise en commun des citoyens, des élus, des chercheurs et des politiques. C'est très important, le partenariat et la mise en commun. Et je conclue en disant, il y a un interlocuteur tout à l'heure, je crois qu'il était italien, peu importe, qui disait, j'ai fini, il disait « je participe, tu participes, il décide ». Eh bien, construisons, je participe, tu participes, nous participons et nous décidons. Voilà, je crois, la voie à suivre.
Bom dia, Henrique Parra, sociólogo e pesquisador da Unicamp Campinas. Eu gostaria de chamar a atenção para um assunto que eu acho que não foi suficientemente destacado nas mesas que seguiram, não apenas essa, mas as anteriores, e que diz respeito à relação ciência e sociedade, como destacado pelo mediador da mesa. Né? Eu acho que eu senti presente também em outros fóruns e que eu acho que poderia ser trabalhado de uma maneira de aproximação. Diz respeito ao direito à comunicação, pensar a possibilidade de uma ciência, liberdade, né, científica, liberdade de ciência, significa pensar também as próprias condições de se comunicar com a sociedade. Isso significa um olhar atento aos instrumentos que estão disponíveis de comunicação, que estão pensando sobretudo a internet, passando por um processo de cercamento bastante forte. Então, queria chamar a atenção para a necessidade de se pensar a liberdade de conhecimento entrecruzado com a liberdade, com direito à comunicação, direito à informação, que é um tema, acho que, transversal, que não é pensar a comunicação como um instrumento, né, não pensá-la como um instrumento para a ciência, mas como própria constitutiva da missão científica, da comunalização do conhecimento. Ou seja, para realizar um dos pilares, não é, e dos princípios científicos, exige também uma luta pela democratização da comunicação, para que os cientistas possam, inclusive, diminuir, acho que, um certo clima de animosidade que existe com relação àquilo que é identificado como científico, porque aquilo que está disseminado socialmente como científico é identificado como um modelo hegemônico da tecnociência, como se isso fosse ciência, não é? Então, acho que é necessário realmente trabalhar a comunicação desde dentro da ciência, e não como um instrumento, quer dizer, não é um par, mas também a comunicação na sua relação como.
Friends, I'm KK from Kerala. I'm here to just underline a small big point. See, when we talk about democracy, and if democracy is about involvement of large number of people, majority, then we have to think about the large number of people outside. We are generally considering that science is something understood by everybody. No, science has its rules, regulations, laws, etc., etc. If you don't take that into account, it will be like me traveling in Belém without understanding Portuguese. So, how do you make people at large capable of engaging in the larger debate of science? The kind of alienation that has taken place, science did not come out of blue. It came out of the life and experience of people. So how do we do that? It requires different kinds of movements. Movements of scientists, movement of scientific workers, fine, they have to be there because they are doing the science. But people's movements for science are important. And engagement between these set of bodies of scientists, researchers, and people who are concerned about science. And this, I think, is very important. And when we talk about democracy and science, it's not democracy within scientists, it's science and democracy. So we have to consider this seriously. Thank you.
Thank you.
Thank you. Eu me chamo Sidney, sou da Unicamp. Democracia pressupõe igualdade. A igualdade não nega diferenças. O oposto é de diferença é idêntico, é identidade. Nós estamos aqui diante de uma proposta de ciência e democracia e eu não vejo nenhuma oposição entre a busca da igualdade entre todos nós, a busca da relação entre ciência e democracia com desrespeito às diferenças. De fato, o conhecimento não pode ser visto como ocidental, como oriental, como primitivo, como tradicional. O conhecimento deve ser equitativamente acessível a todos. Não é? Repito, igualdade, em português isso tem um sério problema. Igualdade aqui é uma tradução latina que esquece que igualdade tem a ver com equidade, com equal. Não é? E identidade e diferença tem a ver com idêntico e diverso. Muito obrigado a todos vocês. Nós vamos fazer uma continuidade dessa discussão no Fórum Social Mundial. E eu gostaria de deixar aqui um convite, ele vai acontecer no pavilhão HP09, o pessoal da Unicamp vai estar discutindo ciência, sociedade e democracia a partir de uma perspectiva brasileira. Muito obrigado, eu gostaria de convidar a todos.
Thank you everyone. I apologize to people who couldn't take the floor and to people who had been interrupted in the middle. I'm so sorry about that. But we do want to give what I would call the last sentence to our speakers, more or less like the last sentence, because we are now running anyway. We start with this.
There is no way out. We, the people, have to attack. We have to attack our scientific institutions with our interests and our requirements. And we should bring experts and scientists and engineers to the field, to the people, and we should give them directions of the research. We should give them the directions of the research. Then only there will be interactions too. And that will no doubt, I have no doubt, that will bring a lot of change to the society, and that will bring a lot of people's action. And this is the role of people's science movements in the world, I think.
Clearly 10 minutes is not long enough to make an effective argument. Since the two people who mentioned my paper had opposite points to make, they seem to have understood me to say opposite things at the same time. One of them thought I had emphasized too much the autonomy of science, and the other thought I had not spoken enough about the control of science by society. It's difficult. So actually what I tried to say was that science, in making final decisions about between theories that are in conflict, would be autonomous. Social, no chain of command leading from some social institution down to scientists should tell them what theory is true. At the same time, I also said that the orientations of research should be socially controlled. Governments should decide what to fund. Now, that doesn't mean that governments will order all scientists to work on commercially useful and profitable projects. That's a particular application of the general principle of government control of funding. It could be that a government that was more intelligent and less enslaved by business interests would order scientists to do a lot of fundamental research without being told what exact projects to work on. That's also a type of social, public, democratic decision about research. This is just a different one from the neoliberal one that prevails at present. So, but it should, these matters ought to be in the hands of public authorities since their money is being spent. But that's entirely separate from the question of the decisions about, the epistemic decisions about what is true and what is false. So that was the distinction that I was trying to make.
Alors, plus que jamais, je suis convaincu, après tout ce qui a été dit dans le débat, qu'il faut entreprendre un travail de précision du sens de certains mots et de certaines expressions. D'autres propositions de termes ont été avancées tout à l'heure dans le débat, je les ai notées en tout cas. Ça nous paraît extrêmement important si nous voulons continuer à travailler entre nous. Sinon, chacun va s'écouter, comprendre ce qu'il a envie de comprendre et ça ne marchera pas. Deuxièmement, vous avez entendu le représentant d'une région, l'expérience d'une région en France, c'est François Auguste qui nous a expliqué ça. Je crois que c'est très important car c'est le moyen de faire porter la responsabilité à qui la mérite. Lorsque le gouvernement engage un grand programme de recherche sur l'armement nucléaire, si nous commençons à accuser les chercheurs qui acceptent de faire ce travail, eh bien tout ce que nous gagnerons, c'est de les repousser de l'autre côté. S'il y a de l'argent, il y aura forcément des chercheurs pour faire la recherche. Mais si il y a un travail de participation, comment il appelait ça, légitimité de l'intervention citoyenne directe, à ce moment-là, il y a eu débat, et cela déplacera les mises en accusation et les responsabilités. Voilà, c'est une forme d'action peut-être propre à la France, mais là, nous croyons que ça peut peut-être se développer un peu plus. Enfin, peut-être, ce qui me paraît le plus important dans ce qui vient d'être dit, c'est comment choisir, car il n'y a pas de l'argent pour tout faire, bien sûr, entre des recherches sur le Big Bang et le risque. Eh bien, ça, c'est un travail politique. On peut se tromper. À un moment donné, il y a des élus, il y a des gouvernements. S'il y a débat, on peut penser qu'en effet, il faut commencer par donner plus d'argent sur les recherches concernant les climatiques, car c'est important, et s'apercevoir dans quelques années que non, on s'est trompé. Ça, c'est la vie. Et ça suppose qu'on puisse parler. Il n'y a plus à dire.
Fazer só um comentário rápido e depois uma rápida conclusão. com relação à questão da comunicação colocada por um dos participantes. Né? Evidentemente que a internet pode ser um instrumento importante, mas depende de onde também. Né? Quer dizer, a aquisição do computador ainda está muito longe de chegar aos lares aqui do Brasil e muito mais distante ainda dos lares aqui da Universidade da Amazônia. Né? Então, a maioria absoluta da população aqui não dispõe desses instrumentos, né? E tem dificuldade de acesso. Mora em áreas, muitas populações ainda, agora que começa a chegar a energia elétrica, né? Você não tem acesso, né? Não tem acesso à capacitação, não tem acesso à educação formal, etc. Então, para os centros urbanos, eu acho que o Brasil até é um dos que desponta, né? Tem um uso muito grande de internet, mas a gente tem que pensar naquelas outras populações, né, que não têm acesso nas periferias da cidade. Então, eu acho que não dá para esperar, entende? Quer dizer, até que todo mundo tenha esse acesso. Né? Meus colegas europeus também demoram milhões de anos para me parece que não abrem um e-mail, porque demoram milhões de anos para responder um e-mail. Então, não é só aqui também, quer dizer, esse uso é complicado até mesmo no meio científico, né? Tem gente que leva 2-3 dias, até mais, para abrir uma internet, né? Então, é complicado. E a outra questão é para dizer que, só para finalizar, né, então, que o que se tem a fazer, né, é uma revolução, né? Não vou falar do tipo revolução cultural lá da China, que deu no que deu, né? Mas uma revolução mais criativa, né? Mais sensível, né? Tanto no âmbito do Estado como da sociedade, e que também implique, né, que certamente que implique numa transformação democrática, incluindo a do campo científico. Né? A gente pode ter a vontade de priorizar políticas, estratégias, né, mas a sociedade, se ela não for envolvida, né, já foi falado isso aqui também, não tem como avançar. Quer dizer, nós vamos ficar sempre nos grupos reduzidos, quer dizer, cadê os meus colegas da UFPA, tem poucos aqui, né? Acho que dá para contar numa mão, né? Que tem uma associação de professores da universidade, quer dizer, onde é que estão esses cientistas, né? O próprio NAIA, que é uma instituição de ponta aqui na Amazônia, né? A gente não consegue se entender quanto à interdisciplinaridade, né? Temos vários grupos, né, trabalhando em direções diferentes, quer dizer, é muito difícil, quer dizer, tudo praticamente ainda está para ser construído. Infelizmente, né, a gente continua com a utopia. Obrigada.